Cette semaine, dernière émission de La vie en BD et on se met en mode club de lecture pour en finir avec 15 ans de coup de cœur. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure, une dernière fois à la barre de cette émission qu'on a le plaisir de faire depuis 14-16 ans, depuis 15 ans maintenant, à parler de 9e art, à parler de bande dessinée. Et pour finir ça, on s'est dit qu'on le ferait dans un premier temps en mode club de lecture. Alors je salue les collègues qui sont avec moi autour du micro. Marco Duchesne, bonsoir.
Bonsoir pour une dernière fois.
Édouard Tremblay, bonsoir.
Salut Raymond, salut à tes auditeurs pour une dernière fois.
Et Émilie Roy-Brière, bonsoir.
Salut Raymond, pour en finir avec tes chroniqueurs.
Effectivement. En fait, la semaine dernière, c'était vraiment une heure de monologue où je parlais de 15 années. Alors, on sera plus en dialogue, mais pour rester un peu dans cette tangente de fermer, je pense, un chapitre radiophonique, un chapitre balado. Et on va se reporter, en fait, pour le contexte de l'émission. Dans le fond, l'automne dernier, Édouard, Émilie, Marco et moi avons fait l'exercice de choisir 8 coup de cœur chacun, donc 8 bandes dessinées qui nous avaient marqués pour différentes raisons, issues de l'ensemble de la production mondiale, que ce soit du côté du manga, du franco-belge, du comics ou de la bande dessinée québécoise. Et on avait invité par la suite à la fois donc les auditeurs, auditrices de La vie en BD, donc ceux tout particulièrement qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et également les gens qui suivent les réseaux sociaux de la librairie Pantoute à laquelle mes trois collègues sont attachés. Donc, pour les inviter à chaque semaine, dans le fond, à faire un choix parmi 2 bandes dessinées, donc un peu comme un immense et éternel combat des livres, qui a fini par se terminer en mai dernier. Et avec ben, plusieurs centaines de bulletins de vote qui ont été complétés. D'ailleurs, en fait, j'ai été agréablement surpris de la participation. Et on a promis un prix, d'ailleurs, au retour de ce concours. Et ben, je vous invite à suivre les médias sociaux de l'émission, là où la gagnante sera contactée dans les prochains jours et se verra mériter un petit paquet cadeau concocté par Émilie, d'ailleurs, et courtoisie de la librairie Pantoute.
On travaille.
Et ben dans le fond, donc, comme je le disais, on est parti de 32 titres et l'objectif de ce club de lecture, en fait, c'est d'en finir avec 15 ans de coup de cœur. Alors, on a parlé en bref de 32 BD l'automne dernier. Maintenant, on va parler en détail des 4 BD qui se sont rendues chacune au demi-finale et évidemment en route vers la finale à proprement parler. Donc, les 4 titres qui ont été sélectionnés par les auditeurs, auditrices de l'émission, par les lecteurs, lectrices, eh bien, il y a 3 titres québécois, donc des très bonnes BD, mais visiblement, en fait, aussi un lectorat qui avait envie de partager les coups de cœur Québec, qui ont quand même bien performé aussi dans le palmarès. Cela dit, j'ai l'air de dire c'est parce que c'est moins bon. Ben non, bien au contraire. En fait, je pense que c'est une nouvelle preuve que notre BD se compare plus que favorablement avec la production internationale. Et donc, on avait 3 titres québécois qui sont arrivés en demi-finale. Donc, Temps libre de Mélanie Leclerc, La Méduse de Boom, Le petit astronaute de Jean-Paul Hyde, donc respectivement chez Mécanique Générale, Pau-Pau et La Pastèque. Et un titre international du côté de Dargo, La route de Manu Larsenet d'après Cormac McCarthy. Également, mais pour ceux qui ont suivi le tournoi sur les réseaux sociaux, eh bien, vous savez d'ores et déjà que c'est Le petit astronaute, donc de Jean-Paul Hyde, qui a été couronné la BD coup de cœur des 15 ans de La vie en BD. Alors, ben, je me suis dit, évidemment, Édouard, tu auras l'opportunité de faire des ponts au fil de l'émission, mais je pense que c'est fort à propos de commencer par parler justement de cette bande dessinée, Le petit astronaute. Une bande dessinée qui a quand même donc eu une belle vie en librairie, qui a bénéficié d'ailleurs aussi de plusieurs traductions. Il y a une adaptation en balado qui a été offerte. Ça s'en vient aussi pour les gens qui habitent à Québec sur la scène du théâtre Le Trident, dans la suite de Paul à la maison qui avait été offert l'an dernier. Donc, on voit une BD, dans le fond, qui a été publiée en 2021, mais qui, 4 ans plus tard, continue d'avoir une vie très, très active. C'est également une BD qui s'est retrouvée dans plusieurs, plusieurs, plusieurs palmarès à gauche et à droite. Et c'est une BD dont on a d'ailleurs aussi amplement chacun, chacune ici parlé au fil du temps. Donc une bande dessinée qui est inspirée dans le fond du parcours familial de l'auteur. Donc et ici, bon, on se retrouve avec Tom, donc un enfant qui est atteint, je crois, de paralysie cérébrale, qui donc on suit les tribulations de sa famille dans le fond à travers le regard de la sœur, qui retourne un peu sur les lieux de sa vie passée, de la vie de famille, qui se rappelle dans le fond différents moments dans lesquels elle, ses parents et son frère sont passés, qui nous permettent de mettre en évidence le lien qui les unit les uns avec les autres et tous ensemble, cette sphère familiale-là, et aussi, bien, dans le fond, les défis, les difficultés, les joies et les peines qu'ils ont vécues au fil d'un parcours quand même pas nécessairement facile. Dans le fond, du moment où on a un enfant atteint d'un handicap, bien, il y a des besoins particuliers, il y a des services particuliers, il y a une réalité particulière, et c'est pas toujours facile d'avoir accès aux services, c'est pas toujours facile de relever les défis, c'est pas toujours facile de rester zen non plus à travers certains moments très difficiles. Et c'est une BD, en fait, pour vous lancer un peu la balle là-dessus. La semaine dernière, je l'avais mis aussi dans mes coups de cœur personnels. Pour moi, c'est une BD qui est empreinte de sincérité, qui nous offre une belle entrée dans l'intimité, dans le fond, de l'auteur, de sa famille, et avec un regard qui semble juste et balancé, si on peut dire, sur cette réalité-là, et dans le contexte, dans le fond, d'une narration qui pour moi, qui est un sans-faute, là.
Ben, comme toujours, je veux dire, Jean-Paul Haïd, hein, c'est un habitué de la vie en BD, un habitué du club de lecture, parce que, justement, c'est un des très, très grands BDistes qu'on a ici au Québec, et Dieu sait qu'on en a des bons. Mais il s'est toujours distingué comme ça, hein, avec des histoires toujours d'une belle force, toujours manié avec une maestria comme ça, avec une maîtrise, avec un rythme, avec une force de récit et d'évocation qui est toujours redoutablement efficace. Puis, je veux dire, le petit astronaute est un autre témoignage de cet extraordinaire talent-là. Je veux dire, on finit ça, c'est la boule dans la gorge automatique. Je veux dire, si c'est pas carrément des larmes, c'est d'une sincérité extraordinaire, d'une beauté extraordinaire. Donc, on ne peut pas ne pas être touché par cette BD-là. Et je comprends pourquoi l'auditoire s'est porté son jeu. Quand même, au terme d'une lutte très, 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 très chaude, il faut le souligner, entre hein, la méduse et le petit astronaute. Mais quand même, chapeau au petit astronaute, qui est une extraordinaire bande dessinée.
Oui, je pense d'ailleurs pour l'anecdote, quand on était autour de 150-200 votes, c'était pratiquement nez à nez. Là. C'était fascinant à voir aller, c'était haletant à voir aller. Mais pour rester sur ce petit astronaute, je voulais aussi réagir, Émilie, quand Édouard parlait du côté émotif, dans le fond, entre autres, de la bande dessinée.
Ben, moi, j'ai une confession à faire. Je n'avais pas lu Le Petit Astronaute quand il est sorti. Je ne l'ai pas fait non plus dans les années qui ont suivi, et donc je le lisais pour la première fois en préparation de l'émission. Donc, c'était un baptême du feu du petit astronaute en ce qui me concerne. Je crois que ça m'a pris 3 quarts d'heure en venir à bout, et j'ai pleuré sans discontinuer pendant 3 quarts d'heure de temps. Puis, je suis passée par toutes les émotions, je suis passée par la tristesse, j'ai été émue, j'ai été touchée, j'ai été fâchée, tout s'est passé, puis c'était un peu difficile à gérer toutes ces émotions en même temps, mais c'est un souvenir de lecture absolument lumineux, avec des personnages qui sont complexes, qui sont attachants, qui ont tellement de profondeur qu'on aimerait devenir leur ami, qu'on aimerait faire partie de leur petit groupe, qu'on aimerait envoyer des messages à Major Tom le jour de sa fête. Donc, c'est lumineux comme lecture.
C'est pas surprenant que cet album-là se soit hissé au sommet, et quand je dis au sommet, à être gagné, de tous les... tous les finalistes qui ont fini par, dans ce concours-là, là, je parle, ont fini par aboutir au final. Les quatre, c'est des auteurs et autrices qui maîtrisent la narration en bande dessinée, les codes et tous ces auteurs et autrices qu'on a choisis et qui, depuis 15 ans et depuis 20 ans, mais depuis toujours en bande dessinée, qui se démarque, c'est la maîtrise des codes, la maîtrise de la narration en BD. C'est un de mes cheval de bataille pour savoir si c'est une bonne bande dessinée ou pas. Et Jean-Paul Hyde l'a prouvé dès le départ avec toutes sortes de, avec son Jérôme Briga, Briga,
Jérôme Bigra.
Bigra. Le trou dans l'album, le trou, c'est extraordinaire. Ça allait rejoindre un peu ce que faisait Marc-Antoine Mathieu. Mais la femme aux cartes postales a été vraiment, pour moi, une révélation. Et quand arrive le petit astronaute, dans cette narration-là un peu conventionnelle, mais qui vient appuyer tous les moments. Tu sais, la façon de raconter, c'est appuyer des moments d'émotion, des moments de avec pour mentionner ces moments-là qui marquent, et surtout que c'est personnel, et surtout que c'est autobiographique, là, ça devient de plus en plus important. Et cet album-là, c'est un grand auteur au Québec, Jean-Paul Hyde, il l'avait trouvé. D'ailleurs, j'ai eu la chance on a eu la chance à la librairie Pantoute de le recevoir en conférence avec son scénariste pour La femme aux cartes postales, et on a pu découvrir comment il travaillait, comment il abordait ses sujets, comment il faisait en sorte que, pour raconter cette histoire-là, d'où venaient ses importances de travailler quoi puis et comment. Voilà.
Oui, puis en fait, dans les choix qu'il a fait sur le plan scénaristique aussi, tu sais, je veux dire, dès le départ, de dire, OK, on va y aller avec une approche de souvenir, on contextualise dans un temps qui est beaucoup plus rapproché de nous avec, donc, la sœur qui rentre dans leur ancien appartement, qui découvre les pièces à partir de là, que la narration s'ensuit, que les époques, ça justifie, dans le fond, le choix des ellipses puis de faits saillants, ça l'intègre dans une approche narrative plus large. Et c'est des petits choix ou des petites décisions comme ça qui ont un grand impact, je pense, sur la force narrative puis la relation qu'on va avoir aussi avec ce qui est proposé là, dans les planches, dans les pages.
Mais c'est vrai que le récit coule de source à mesure qu'on se promène dans la maison. C'est drôle parce que Marco mentionnait qu'on avait reçu Claude Pémant et Jean-Paul Hyde à la librairie pour La femme aux cartes postales. Puis, dans ce cas-là aussi, le point de départ du récit, c'était la maison. Donc, les deux s'étaient rencontrés en se disant ah oui, on pourrait écrire une histoire sur une maison, puis il faudrait qu'il y ait un secret qui soit caché. Puis c'est ce qu'on découvre dans La femme aux cartes postales, même si l'histoire ne se déroule pas dans cette maison. Mais aussi dans Le petit astronaute, justement, avec la visite de cette maison, j'ai l'impression que c'est aussi, ça fait un peu écho à notre perte de rituel, notre perte de repères, puis un peu l'importance d'en créer des nouveaux qui nous appartiennent.
Oui, puis l'importance de la fratrie aussi, parce que j'ai l'impression que si ce choix-là avait pas été fait dès les premières planches, on se serait peut-être retrouvé plus centré sur le couple et l'enfant, dans le fond. Et là, subitement, mais la sœur, on lui donnait d'entrée de jeu un rôle actif, d'entrée de jeu une importance, et d'entrée de jeu une volonté, dans le fond, de raconter aussi la relation que les deux enfants ont eue ensemble, la relation particulière qu'ils avaient. Et ben, à travers ça aussi de voir la relation évidemment du père et de la mère, mais qui allait peut-être un peu plus de soi. Alors ça enrichit, je trouve, le spectre de personnages, le fait de pouvoir aller vraiment explorer l'ensemble de la sphère familiale, puis de voir aussi, puis d'analyser les conséquences que cet enfant-là, qui semble extraordinaire, bon, et le reste, mais qui a aussi des besoins particuliers, qui amène une autre dynamique que la dynamique traditionnelle dans la famille, mais quel impact aussi ça peut avoir, comment on se raccroche, comment on bâtit une relation, et ça ouvre plein de portes narratives, qui après ça sont aussi mise de l'avant dans d'autres moments. Tu sais, je pense par exemple l'arrivée à l'école de ce petit astronaute-là, puis toute la dynamique dans la classe, ça nous permet de voir aussi donc la notion relationnelle, le contexte du service dans d'autres contextes, mais dans le fond, puis ça revient un peu à l'idée de trouver les bons moments, les bons épisodes, puis les bonnes personnes pour accompagner l'enfant dans ces différents instants-là aussi qu'on nous propose.
Ben, c'est une. Tu sais, il y a une absence de complaisance dans cette façon-là, justement, de raconter, tu sais, dans cette authenticité-là, de pas cacher, justement, que pour les parents, ben, c'est un défi, évidemment, que ça va être un défi pour cet enfant-là, que si tu veux, c'est pas. La société est ainsi construite, c'est triste, mais c'est ça. Mais que malgré tout, il y a toutes ces petites victoires et Dieu sait que c'est comme ça que se bâtit, tu sais, une vie à force de petites victoires à l'arraché et tout. Et donc, on retrouve tout ça dans le récit et on ne peut pas ne pas être interpellé, on ne peut pas ne pas complètement tomber sous le charme de ça et le lien, bien sûr, avec justement Major Tom de David Bowie, qui est brillant dans tout ça et qui rajoute à justement la, je dirais, à la poésie de ce récit-là. C'est tellement, 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 tellement une belle réussite, là. Voilà.
Oui, ben, en fait, on revient à ce que je disais au départ. En fait, c'est pour moi, il y a des BD comme ça qu'on croise qui sont un sans faute et qui réussissent parfaitement à faire ce qu'ils désirent faire en allant chercher, dans le fond, les outils, les ingrédients, l'expérience de l'auteur. Puis, on parlait tantôt du parcours BD de Jean-Polide. Et je réitère, en fait, dans les titres qu'on a mentionnés, puis j'aurais envie aussi de rajouter Memoria, qui est aussi disponible en album que j'ai relu abondamment récemment. Mais, tu sais, c'est quand même quatre styles narratif et quatre styles d'univers qui sont différents. T'sais, on a le récit intimiste, humain, à l'esprit un peu biographique, pas autobiographique, mais une autofiction, si on peut dire. On a le récit d'enquête, en fait, thriller. On a le récit plus expérimental, humoristique. On a un récit de science-fiction. Et dans quatre styles, dans quatre univers radicalement différents, Jean-Paul Hyde réussit à exceller avec, dans certains cas aussi, les scénaristes qui l'appuient. Mais je veux dire, ces quatre excellents albums qui, et je pense que La femme aux cartes postales était dans nos 32 aussi au départ. Jérôme Bigras aurait pu l'être s'il avait été dans la bonne temporalité de sortie par rapport aux dates qu'on s'était imposées. Mais je veux dire, c'est quand même un parcours, une production qui est extrêmement solide qu'il nous offre depuis des années, des années, des années, là.
Il y a toujours une espèce de relation à la musique aussi. Justement, on en parlait par Major Tom dans La femme aux cartes postales aussi. C'est central dans le récit, les cabarets de jazz, le personnage de Rosie qui veut devenir chanteuse dans l'un de ses cabarets. Puis moi, mon premier contact avec Jean-Paul Hyde, en tout cas, peut-être mon premier contact conscient avec Jean-Paul Hyde, parce que je crois en avoir lu dans Sa Rire avant, c'était une petite exposition qui avait lieu à la Place des Arts à Montréal. Ils avaient invité des artistes pour aller voir un concert et produire une œuvre qui serait exposée. Puis, lui, si je me rappelle bien, c'était un spectacle de Plume la Traverse, où est-ce qu'on avait des planches qui faisaient une espèce de transition très, très douce entre le manche de la guitare et un autre décor complètement. On en a souvent des espèces de petites transitions comme ça dans ce qu'il dessine.
Il y a dans cette sélection du public, je trouve quelque chose d'assez extraordinaire dans la thématique. Je pense, Raymond, que tu as vraiment un auditoire qui s'est adapté à toi ou je ne sais pas, qui te porte une grande admiration. Parce qu'on dirait vraiment un thème de Raymond Poirier. T'sais, la perte et la résilience, c'est ce qu'on retrouve dans nos quatre finalistes. Et je pensais à tous les thèmes que tu avais amenés. C'est vraiment ça. C'est vraiment comme si tu avais choisi le thème et que par hein, le même pas le hasard, par le choix comme ça des auditeurs, inévitablement, on s'en retrouve justement avec ces récits-là, où là on a la perte, hein, portrait d'un frère, d'un enfant. En finale, comme ça, avec la Méduse, où on a, je veux dire, carrément la perte, hein, ici, de la vue, qui va être portée par des procédés graphiques, encore une fois, qui sont géniaux. Je veux dire, c'était pas une petite finale qu'on avait là, et on comprend pourquoi ça a été aussi serré. Je veux dire, boum, avec la Méduse, comme ça, a cartonné depuis sa parution à gauche et à droite. Avec raison, il va sans dire, et je pense que ce qui est extraordinairement beau dans tout ça aussi, c'est de voir en quoi 10 ans l'ascension fulgurante de la maison Pawpaw, qui a multiplié comme ça des titres d'exception, qui est allé chercher comme ça des bénis, des études, je vous disais qu'à Guy Delisle, qu'à Francis Desharnais, qu'à Myriam Mal, comme on en a, mais qui en a une tonne, et qui, justement, de Viviane, bien sûr, et qui a comme ça fait sa marque dans le paysage québécois. Et qui en reçoit maintenant, je dirais, pleinement le mérite et tout, et c'est comme largement, largement mérité. La Méduse, c'est la BD que tout le monde devrait lire au moins une fois. Tout le monde va être interpellé par ça, tout le monde va être touché par ça. C'est encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais je veux dire, c'est comme le petit astronaute, c'est une beauté, c'est extraordinaire.
Et on parlait, puis c'est une BD qui a été, en fait, qui, je veux dire, la quantité de traduction, qui a eu des prix, des récompenses. Et je pense qu'on l'avait mis de l'avant beaucoup, entre autres dans la sélection du prix ACBD qu'elle avait eu, mais sur le fait que elle sait et elle arrive à exploiter, dans le fond, le potentiel de la bande dessinée pour faire ressentir le handicap au lecteur, à la lectrice, par le fait que ça arrive, dans le fond, progressivement, dans le fond, au fil des pages, que la Méduse est là, qu'elle apparaît, oups, il y en a 2, oups, il y en a 5, oups, il y en a 10, oups, j'arrive de moins en moins à distinguer ce qui est en train de se passer, comme le personnage le vit à proprement parler aussi. Donc, déjà là, tu sais, je pense que ça prend un récit qui était touchant et ça le magnifie, ça le... Ça l'amène à transcender peut-être un peu à aller jusqu'au bout de la force, dans le fond, du médium, puis de la force de la narration visuelle qu'on peut proposer pour produire un récit qui aurait jamais pu être raconté autrement. Je veux dire, la Méduse ne pourrait jamais être un roman. Probablement qu'elle ne pourrait pas être une balado non plus dans l'état où elle en est. C'est un objet de pure bande dessinée qui marche parce que c'est une BD, puis parce qu'on met à profit à 100 000 à l'heure un approche qui est propre à la narration bande dessinée. Et c'est le genre de BD où on dit aussi, regardez pas le côté, le cœur, parce qu'on voit les pages se noircir au fur et à mesure que le récit avance. On s'attend peut-être un peu à quelque chose. Mais je veux dire, c'est ce qui fait aussi que ça devient la Méduse une expérience émotive, une expérience visuelle, une expérience, au bout du compte, immersive pour le lecteur, pour la lectrice.
Mais ça, on le constate souvent en librairie. Quand je suggère la Méduse, je la mets entre les mains de la personne. Je lui dis « Lisez cette bande dessinée. » Moi, je pense que c'est une des meilleures BD québécoises qui a jamais existé. Puis, la personne la feuillette un peu, puis passe les pages très, très rapidement. Puis, je sais pas, à ce moment-là, moi, j'ai l'impression que je perds quelque chose parce que c'est comme si on donnait en apparence toutes les clés de l'album, donc j'explique, bon, c'est l'histoire de dette, elle a des problèmes de vue, c'est représenté sous la forme d'une petite méduse qui se promène dans la case, puis à mesure que les pages passent, ben, les cases deviennent de plus en plus noires parce qu'elles sont peuplées presque intégralement de méduses, mais je sais pas, à ce moment-là, j'ai l'impression que la personne se dit « Ah oui, ok, bon, je comprends, c'est parfait, on verra plus rien à la fin, c'est réglé. » Mais lorsqu'on l'expérimente, lorsqu'on la lit, comme tu disais, Raymond, on adopte le même regard que le personnage d'Odette. On n'a pas le choix de regarder entre les méduses pour essayer de comprendre ce qui se passe à la fin, parce qu'à la fin, on voit presque plus rien. Puis, c'est tellement progressif comme procédé, parce qu'on le vit au même moment que le personnage, que ça va être mis davantage en lumière vers la fin, où est-ce que de temps en temps, on a un petit moment pour respirer parce qu'on va avoir une prise de vue qui se passe à l'extérieur de l'appartement ou dans la rue. Puis toutes les cases où Odette n'est pas présente, les méduses n'y sont plus. Tout est clair. On voit ses amis devant la porte, cognés à la porte de l'appartement. Puis, ben, lorsqu'ils entrent, soudainement, on est assailli par toutes les méduses qui sont dans le chemin, puis on voit plus rien, puis Odette va pas bien, puis...
J'ai l'impression qu'il y a un effet aujourd'hui où quelqu'un qui prend la méduse suite à la conversation qu'on en a, c'est en 2022 quand on en parlait, puis j'avais fait une longue entrevue avec Boom là-dessus, puis on disait, OK, on va divulgâcher, puis on avertissait parce que, tu sais, dans le fond, la surprise faisait aussi partie de l'expérience. Là, aujourd'hui, 3 ans plus tard, ben, l'élément de surprise devient un peu aussi l'argument distinctif, c'est ce dont on parle toujours quand on parle de la méduse, mais l'expérience dans mon cas, je veux dire, la première fois que j'ai pris cet album-là, puis que je ne savais pas où ça en allait, je ne savais pas quel était le processus, et de se laisser surprendre et emporter. C'est comme la première fois que tu joues à un jeu vidéo qui transforme ou que tu regardes un film, tu sais que tu revivras pas ça une deuxième fois. Puis malheureusement, ben peut-être j'ai l'impression que le fait que désormais le chat est plus que sorti du sac sur le procédé, que cette surprise-là pourra pas être partagée. Donc, elle devient une surprise attendue. Mais comme tu le dis, Émilie, c'est pas parce que la surprise est attendue qu'elle n'est pas moins maîtrisée non plus, parce que c'est fin, c'est subtil, c'est progressif. Et une fois que tu t'immerges dans la BD, que tu sais qu'il y a une épée de Damoclès qui s'en vient, tu l'attends, mais ça s'en vient tellement subtilement, tellement de façon organique, que tu oublies que tu l'attends, j'ai envie de dire, et que tu te laisses quand même à nouveau surprendre par l'ampleur de l'espace que la méduse va prendre plus l'album avance.
Mais c'est un peu comme dans la bombe, hein. Moi, j'ai toujours dit la plus grande force de la bombe, c'est qu'à un certain moment donné dans l'album, on espère que la bombe n'explosera pas. Mais c'est un peu comme écouter le film Titanic, là. On sait que le bateau coule à la fin.
En fait, tu sais, dans le travail que j'accomplis à tous les jours, il y a un moment donné, je fais une présentation pour des clients pour tout ce qui sort en BD. Alors, des trucs autobiographiques, j'en vois passer, puis des trucs autobiographiques qui parlent de maladies, qui parlent de trucs, j'en vois passer aussi, tu sais, l'aspect. Pour moi, l'aspect, c'est ce que génère une BD pour pouvoir expliquer la chose, ça peut aller là, c'est thérapeutique, c'est tout. Mais dans les 4 cas qu'on a choisi, il y a vraiment un petit plus. Tu sais, on en parlait pour le petit astronaute, mais pour ce qui est de Boom et ce qu'on va voir plus tard avec Temps libre de Leclerc, chacun a choisi de raconter quelque chose de personnel, de vraiment personnel, mais de dramatique, oui, mais aussi de façon différente narrativement. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça la bande dessinée. C'est les codes qu'on peut utiliser pour passer des émotions, des sensations, des un paquet de choses, et boum, le réussit facilement, parce que on parlait du petit astronaute avec le drame d'un enfant handicapé ou un enfant qui n'est pas pareil aux autres. Boum, qui vit un drame avec personnel, tu vois, et on va le voir plus tard avec Mélanie Leclerc, avec Temps libre, et c'est différent aussi, c'est un membre de sa famille, mais on arrive à faire passer le quotidien, les gens qui nous entourent. Et Mélanie Leclerc et ce qui est de Jean-Paul Hill, et le quotidien, il faut passer leur quotidien dans ce drame-là, avec les amis, avec la famille. Et c'est ça qui passe, c'est ça qui arrive à nous faire passer dans cette narration-là, je pense, qui est plus forte que tout le reste. La façon de raconter, mais aussi de faire passer le message de, tu sais, ouais, je t'atteins d'un bobo, j'en souffre et tout. Non, non, je vais te raconter mon bobo, mais en même temps, je vais te raconter comment je le vis, comment les autres le vivent, comment, et c'est ça qui est, à mon avis, le plus réussi dans tous les albums qu'on a ce soir.
Édouard?
On parlait de perte, hein, de résilience comme ça, c'est bon, quelque chose qui transparaît beaucoup dans la Méduse, autant que là, on m'enseigne une libraire qui va être affectée de cécité, donc imaginez bien sûr le drame comme ça, que ça peut frapper. Mais il y a aussi dans un récit comme celui de Mélanie Leclerc, de Temps libre, cette même perte, cette même résilience, mais comme l'expliquait Marco, d'une manière différente, d'une manière intime, mais en même temps toujours avec cette perspective plus large qui fait la marque de Mélanie Leclerc, qui était là aussi dans Contact, cette capacité qu'elle a comme ça à aller porter son regard dans le très très personnel et dans le très très, je dirais, public. Alors qu'on a ici, je veux dire, quelqu'un qui faisait du théâtre, quelqu'un qui était quand même une figure, disons, justement, un petit peu publique, qui perd la mémoire. Et en parallèle de ça, de cet Alzheimer-là, la perte aussi des rêves que l'on trimballe depuis notre jeunesse, alors que Mélanie Leclerc, hein, comme ça, qui se met en scène un peu, se débat pour filmer, pour faire le film dont elle rêve, qu'elle souhaite, mais qui est de plus en plus rattrapé par toutes les contraintes de l'existence, par toutes les contraintes de la vie, du temps qui passe et tout comme ça, et bien sûr de la détérioration progressive de l'état de sa tante, et qui donne justement une espèce de récit de renoncement, mais d'acceptation aussi. Et qui va aller nous chercher encore une fois, hein, qui va aller nous remuer. Moi, j'avoue que cette confrontation, peut-être parce qu'on est peut-être un peu dans les mêmes âges aussi, donc un peu au même point ou aux mêmes analyses dans notre vie. Mais bon, c'est cette idée comme ça qu'un jour, ben, tu sais, il y a des vieux rêves qu'on va trimballer, mais qu'un moment donné, ben, il faut leur dire au revoir, puis il faut passer à autre chose. Puis c'est tout ça qui est marquant, qui est touchant dans le récit de Mélanie Leclerc.
J'aurais
Oui,
voulu
ça.
Être un artiste. C'est l'histoire, c'est ça. Mélanie Leclerc, moi, ça a été mon coup de cœur depuis 15 ans sur cet album-là, mais son premier album aussi l'a été. Un coup de cœur, je trouve, c'est une artiste incroyable en bande dessinée. Et avec Temps libre, elle arrive avec une espèce de projet. Je vais te raconter en BD. OK. Ce qui sort en premier, c'est je vais vouloir faire un film, mais un film d'animation tracé sur la pellicule. J'ai déjà vu un documentaire là-dessus, tout ça, et qui va raconter un peu la maladie qu'a ma tante. Et c'est pas une artiste, sa tante, elle fait du théâtre amateur. À mon avis, c'est encore plus triste, tu sais, qu'une une dame de cet âge-là qui fait du théâtre d'amateur va perdre la mémoire, tu sais. Mais Mélanie Leclerc raconte cette histoire-là, mais en même temps, elle est à temps partiel dans une bibliothèque. Et là, elle voudrait gérer le temps de la bibliothèque, le temps de la famille, parce qu'elle a une famille, on découvre qu'elle a une famille et qu'elle s'en occupe, là, très bien d'ailleurs. Et elle a aussi ce projet-là, qui fait que Temps libre prend tout son sens dans cet album-là. Et là, on a le parcours de cette femme-là qui gère un projet artistique, qui gère son travail, mais aussi ses relations, parce que elle est amie avec tous des artistes, là, c'est sûr qu'elle est dans un milieu artistique et tout. Et là, il commence à réfléchir sur c'est quoi être un artiste, comment on travaille, qui peut le faire à temps plein, qui peut le faire à temps partiel. Moi, j'ai adoré cet album-là pour ça, cette réflexion-là, mais j'ai adoré aussi cette vision-là qu'avait Mélanie Leclerc au niveau de la narration. J'arrête pas d'en parler, je sais, je suis fatiguant là-dessus. Mais, cette narration-là, où elle intègre son travail d'animatrice, de film d'animation, avec les trucs, et cette relation qu'elle a avec... Bref, moi, ça venait chercher ça venait cocher toutes les petites cases de ce qui est un album qui marque des années, personnellement.
Et ce qui est intéressant quand tu mets, parce que tu mentionnais Marco Contact aussi, donc son premier album, dans le fond, deux éléments là-dessus. Premier élément, Temps libre, c'est son deuxième album. Ça nous avait frappé, je pense, quand elle était arrivée avec Contact, avec un premier album qui avait une grande maturité sur le plan visuel, sur le plan graphique, sur le plan narratif, peut-être un peu en lien justement aussi avec son bagage cinématographique, avec son bagage familial aussi, son père qui lui avait transmis la passion de la photographie. Et quand tu mets Temps libre avec à côté de Contact, ce que je veux dire aussi là-dessus, c'est que c'est pour moi, puis tu sais, je veux dire une BD, tu sais, où tu comptes une bouée que tu lances aussi, puis je veux dire, chacun la rattrape avec sa propre sensibilité, avec son propre bagage, son propre parcours, sa propre expérience que tu reçois de façon différente, je pense, l'expérience qui t'est racontée aussi là-dedans. Et c'est ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que c'est, je veux dire, l'importance de l'art, c'était dans la transmission aussi, c'était une passion que sa famille, que son père lui avait transmise, qu'elle avait grandi avec cette passion-là. Et finalement, on comprend dans le deuxième, dans Temps libre, ben, qu'elle n'a jamais pu aller jusqu'au bout de cette passion-là parce que le reste, parce qu'à un moment donné, il faut vivre, faut être payé, il faut avancer dans un travail qu'on aime, mais peut-être qu'on n'aime pas nécessairement de façon aussi intensive que le travail artistique qu'on aimerait faire, parce qu'il y a une vie de famille dans laquelle il faut s'investir aussi, puis il faut leur donner un maximum de chances de pouvoir aussi aller jusqu'au bout de leur rêve. Et ça revient à ce qu'Édouard disait tantôt, ben, à quel moment, dans le fond, tu te dis, ben OK, cette pratique artistique-là aura été pour moi une diversion intéressante, que j'ai quand même pu produire quelque chose, offrir quelque chose, m'imprégner un peu de cette dynamique-là. Mais à quel moment tu dis, OK, je le sais que j'arriverai jamais à aller au bout de ça, au bout de ce parcours-là. Et d'autant, ben, quand en plus, j'imagine qu'il y a un peu une volonté ou une pression, ça représente aussi une dynamique filiale, familiale, etc. Donc, il y a quand même une dynamique particulière. Donc, j'imagine l'émotion dans laquelle cette réflexion-là se fait, sachant que ce n'est pas des deuils faciles non plus, de se dire, OK, j'aurais toujours aimé ça faire ça, mais je ne pourrai pas le faire. La vie, finalement, les choix que j'ai faits dans la vie, qui ne sont pas nécessairement des mauvais choix, mais nécessairement, on se ferme des portes. Et c'est quand les portes sont entrouvertes, en fait, qu'ils ne sont pas encore entièrement fermées, qu'on peut garder l'espoir, peut-être le fol espoir, que un jour, on va réussir à l'ouvrir entièrement. Et tu peux t'animer de cet espoir-là jusqu'au jour où tu réalises que, ben non, finalement, si c'était entrouverte, c'est parce que je n'arriverai jamais à l'ouvrir plus, parce que ça reste une passion pour laquelle je n'ai que des temps libres à donner pour aller jusqu'au bout et qui ne me mènera jamais jusqu'au bout parce que je ne peux m'y investir totalement et complètement.
C'est tout à fait la dichotomie entre la BD européenne qui, pour la plupart, pour une grande partie d'auteurs qui ont fini par vivre de leur art depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, là, mais ici au Québec, tu sais, vivre de la BD, c'est très difficile. Je sais pas s'il y en a qui en vivent, là, mais il faut qu'ils fassent des trucs à côté. Tu sais, c'est ça le noyau du truc. C'est Temps libre, c'est ça. Mélanie Leclerc est animatrice, la BD. Bon, elle a un talent immense là-dessus. Je sais pas si c'est ça qu'elle veut en faire, mais je pense que on sent dans Temps libre que elle voudrait faire plus d'animation, plus de ce qu'elle sait faire là. Puis avec ce projet-là, en fait, à la fin de la lecture de cet album-là, mon espoir à moi, c'était de voir le film qu'elle allait faire sur sa tante, là. Le film d'animation qu'elle allait faire sur sa tante. J'espère que ça va voir le jour. Mais bon, tu sais, je regarde ça puis je me dis, waouh, tu sais, au Québec, on a du talent, mais on a du talent en BD, là. Et ce soir, on le prouve encore, là. Puis il n'y a pas juste ces quatre-là, là. Il y a les 15, 20, 25 dernières années. Moi, je suis arrivé au Québec en 88, puis déjà, du talent, il y en avait, là. Fait que, tu sais, en Europe, il y en a qui en vivent de ça, mais ici, ça, c'est la galère. Hein, et ça commence à être reconnu, la BD québécoise commence à être vraiment mise de l'avant par les journalistes, par les lecteurs par toutes sortes de librairies. Mais, tu sais, ton livre, c'est ça que ça genre, c'est vraiment l'artiste pour pouvoir exécuter son art. Tu sais, il y a un million de contraintes, puis c'est du quotidien. Et c'est ça qui m'a frappé dans ton livre.
Ben, juste pour rebondir sur ce que disait Marco, tu sais, genre, je pense pas qu'il faut s'imaginer, je pense pas qu'il faut s'imaginer qu'en Europe, les BDistes sont multimilliardaires non plus, là. Je pense que c'était pendant l'un des festivals d'Angoulême, il y avait eu des revendications très sérieuses qui exposaient les conditions dans lesquelles vivaient les BDistes, où est-ce que, je me rappelle plus quel pourcentage vivait sous le seuil de la pauvreté, donc je pense que c'est très réel chez eux aussi. Puis, moi, ce qui m'avait le plus marqué, peut-être dans le récit de Mélanie Leclerc, justement, à ce sujet-là, c'est que je crois qu'elle touche à quelque chose d'universel. On a tous une passion à laquelle on ne peut pas consacrer toute notre énergie à 100% parce qu'on a une famille, parce qu'il faut faire l'épicerie, parce qu'il faut payer le loyer. Puis, là-dedans, s'ajoute une espèce de contrainte de compte à rebours parce que le projet qu'elle veut faire, ben bon, gratter de la pellicule, c'est long, OK, parfait, mais imaginons que, je sais pas moi, à l'échelle d'une vie, bon, un jour, peut-être dans 15 ans, j'aurai fini de gratter ma pellicule, mais le problème là-dedans, c'est que le sujet de son film, qui est sa tante, qui est comédienne, ben, elle est en fin de vie. Il y a des journées où c'est pas une bonne journée pour tourner parce qu'elle n'est pas en forme, parce que c'est pas la bonne heure dans la journée, puis elle est trop fatiguée et tout. Donc, il y a cette espèce de compte à rebours qui est très, très, très présent pendant la bande dessinée. On espère qu'elle réussisse à acheter sa pellicule, à aller tourner. Bon, on va falloir gratter plus tard, mais ça, c'est plus tard. Puis aussi l'espèce de panorama de personnages d'artistes qu'on va nous présenter, ce sera pas nécessairement verbalisé par les personnages, mais ils vivent tous un peu la même chose. Ils ont tous une passion qui les anime, puis dans les marges, on voit que c'est pas nécessairement leur occupation principale. Comme justement, il y a un de ses amis qui fait sa musique pour son film. Ils ont l'air d'être de très bons amis parce qu'elle peut aller le voir avec des critères qui n'ont absolument pas de bon sens, comme vent dans un champ l'automne, sous une lune rouge, puis ton ami dit: Ah oui, je sais exactement quel genre de trame sonore tu as besoin. Puis, lorsque cet échange-là est terminé, quand elle lui parle de la musique de son film, lui doit répondre à des questions pour du soutien par téléphone, pour du service à la clientèle. Donc, pour lui aussi, on comprend que faire de la musique, c'est une activité parallèle, puis malgré tout, produire de l'art pour ces personnages-là, c'est ce qui les fait se sentir vivants. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu sans nécessairement faire de l'art. Ça peut être, je sais pas moi, faire du plein air ou n'importe quoi d'autre, mais c'est central, puis tout est en subtilité. On comprend tout sans que ces personnages aient besoin de le verbaliser.
Ça donne, en fait, dans les récits de Mélanie Leclerc, comme ça, un rapport très fort à la trace qu'on laisse, à l'empreinte, comme ça, qu'on va amener sur le monde, bon, et quelle pérennité tout ça va avoir, et quelle fragilité, en fait, tout ça va avoir. Une fragilité qui va être portée au nu quand, bien sûr, autour de soi, tout s'est effondré. Quand autour de soi, il ne reste plus rien. Quand autour de soi, il ne reste que une personne avec qui on partage la route sans fin, cendreuse, comme l'a voulu Manu Larsonnet, glauque et sinistre, comme le veut le récit de Cormac McCarthy. C'est peut-être ce qui fait une des forces, en fait, du récit, sans explication tout à fait du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui est arrivé, de comment ça s'est passé, parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on n'a pas besoin de savoir d'où ces deux-là viennent, parce qu'il n'y a justement que la route, que cette résilience, encore une fois, de que cette perte, encore une fois, qu'il faut assumer et qu'il faut poursuivre jusqu'au bout. Le récit de McCarthy est extraordinaire, bien sûr, est magnifique et très prenant. Mais pour radoter autour de la BD, comme je l'ai toujours fait, je veux dire, quand on adapte comme ça un roman en BD, il faut avoir une plus-value, je l'ai dit, je l'ai redit pendant toutes ces années de vie en BD. Et on l'a ici avec le dessin de Larsenet. Quelle réussite! Quelle réussite!
Et pas juste le dessin, c'est aussi la narration, parce que pour la première fois avec La Route, j'ai pas lu La Route. Mais
non, moi non plus.
J'ai lu des romans. J'ai lu des romans, là, et à un moment donné, dans les romans, il y a des dialogues. OK, ça s'adapte très bien en BD. Puis il y a aussi des descriptions de paysages, de situations et tout, qui se fait aussi en BD. Et ça peut être bien plein, parce que j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Mais avec La Route, les descriptions, et j'ai pas lu le roman, mais les descriptions de paysages, mais aussi d'atmosphère et tout. Et là, on sentait. On sentait l'atmosphère, on sentait la situation dans laquelle évoluaient ces deux personnages-là, le papa et le fils, à parcourir cette Amérique qui était dévastée. Mais on sentait qu'il y en avait beaucoup, mais c'était jamais trop lourd. C'était jamais. Et Larsenet, c'est celui de. Et là, je parle de Blast, je parle de Le Combat Ordinaire et tout. C'est celui qui arrive à nous faire passer en images et en narration, pas rien qu'une image, mais en plusieurs images, en une succession d'images, il arrive à nous faire passer des atmosphères, des silences. Parce que dans La Route, il y a du silence aussi. Dans ces descriptions de paysages-là, d'édifices vides, d'édifices morts avec des viaducs et tout, là. Donc, c'est une de ses grandes forces. C'est... Là, je vais utiliser un mot que j'aime pas trop, mais c'est vraiment un des grands maîtres de la BD de notre siècle et du fin de du dernier siècle, c'est vraiment un des grands maîtres. C'est celui qui a su innover avec beaucoup, beaucoup de talent la BD. Il a été un des seuls innovateurs que j'ai vu en début de 21e siècle pour la bande dessinée.
On peut discuter du seul innovateur comme tel, mais je te rejoins pour la maîtrise, la grande maîtrise, je pense, en fait, les bandes dessinées que tu as mentionnées, que ce soit Blast, Combat Ordinaire, La Route, et c'est des œuvres marquantes. Je pense que tu ressors jamais indemne, soit par la proximité dans le Combat Ordinaire, je veux dire, les tribulations qui sont racontées. Dans Blast, ben, c'est un choc émotif, c'est un choc visuel. Dans La Route, on poursuit un peu là-dedans. Et Édouard le disait bien, dans le fond, qu'il réussit à s'approprier un peu ce récit-là, à en faire un récit de bande dessinée plus qu'un récit de roman ou qu'un récit cinématographique, à justifier le fait qu'il a choisi de l'adapter parce que justement, il arrive à se l'approprier. Et après ça, dans les choix narratifs, les silences, je pense qu'il faut remettre un peu l'accent aussi là-dessus et la force narrative de ce qu'il propose. Les choix de couleurs, des moments, des scènes qui sont vraiment difficiles, mais qui sont adoucis un peu par les tonalités de gris qu'il choisit d'aller chercher. Je veux dire, il a su placer tous les éléments, tous les ingrédients pour vraiment offrir une adaptation de La Route qui donne l'impression que ça a toujours été fait pour être une BD au final.
Aussi, aussi dans La Route, tu parlais de la force du silence, puis la force de ce scénario. Il y a une espèce d'idéal de pureté dans La Route, malgré tout, malgré toute cette espèce de dévastation, puis une espèce de sentiment de dépouillement à mesure que l'album avance, parce que cet idéal de pureté probablement ne sera jamais rempli, on n'en aura jamais la certitude. Puis, cette espèce de cheminement infini vers le sud des deux personnages crée une espèce de d'attente infinie. On a ces deux personnages-là qui attendent de trouver un asile dans le meilleur des cas, de trouver des alliés dans le meilleur des cas, mais probablement de trouver la mort au final. Bon, enfin, le plus loin possible, si c'est possible.
D'ailleurs, pour le dispatch, en fait, le petit astronaute était des coups de cœur de mon côté. Temps libre, vous l'aurez compris. Ça avait été sélectionné par Marco, qui avait aussi pris la méduse, mais on s'était battu un peu pour le prendre aussi, comme bien des titres dans la sélection. Et Edouard,
Oui,
c'est toi
hein?
qui avais eu, c'est toi qui avais eu la mainmise sur la route, dans les 8 que tu avais pris.
Eh ben, pour moi, tout bonnement, en fait, et je conclurai avec ça, La Route, c'était et ça reste la meilleure BD qui est parue en 2024. Je veux dire, c'est du très, 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 très grand Larsenet. Mais pourquoi je transitionne aussi rapidement? Eh bien, c'est pour m'emparer un peu des ondes pour ces derniers instants de vie qu'il nous reste, parce que je veux me faire la voix de moi, de mes collègues, en fait, de tout le monde qui a passé par ton émission, Raymond, pour te remercier, écoute, du fond du cœur, de cette extraordinaire dévotion, de cette passion que tu as eue au fil de toutes ces années, et pour te remercier de nous avoir embarqués, de nous avoir donné le privilège extraordinaire et unique de pouvoir participer comme ça avec toi, avec tant de plaisir, avec tant de rire à tous ces clubs de lecture, à toutes ces émissions, à tous ces chapeaux. Écoute, c'est le cœur gros, je pense qu'on va tous tirer comme ça notre chapeau à la vie en BD, mais c'est avec un paquet de souvenirs inoubliables et avec tous les remerciements du monde.
Je le disais un petit peu la semaine dernière, c'est pour moi, c'est la force de pouvoir jaser du médium, échanger, en échangeant avec des gens qui lisent plus de BD que moi ou qui en lisent depuis plus longtemps que moi aussi, pour aller chercher des mots, pour mettre les fois le doigt, parce que c'est ce que je trouve fascinant, c'est oui, c'est de dire, OK, c'est mouvement, si, ceci, mais pourquoi? C'est qu'est-ce qui fait que la BD réussit à susciter telle émotion? Puis, tu sais, je pense que ce qui me motivait, entre autres, sur les clubs de lecture, c'était le fait de pouvoir en jaser, pouvoir dire, OK, voici des BD qui ont suscité une réaction chez un ou quatre. Puis maintenant, ben, voyons si c'est partagé. Puis après ça, essayons de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tel aspect fait que ça porte. Merci à vous quatre aussi d'avoir embarqué. Puis pensez à Jérôme Vermette avec qui on avait démarré aussi le club
Bien
avant
sûr.
qu'Émilie prenne la relève. Merci à vous quatre d'avoir été là aussi pendant plusieurs années également. J'en profite pour remercier aussi les autres collègues donc qui sont passés quelques années, voire beaucoup, beaucoup d'années. Donc les Stéphane Gravel, Jérôme Vermette, Sam Murdoch, Olivier Bérard-Vidal, Michel Giguère, donc les collaborateurs abondants, évidemment, les Émilie Roy-Brière, les Édouard Tremblay, les Marco Duchesne aussi. Un énorme merci à vous trois pour les moments partagés. Il va falloir que j'aille en librairie pour pouvoir débattre des BD dans l'avenir
Eh
désormais.
oui.
Et où à la maison de la BD également qui s'est lancée entre-temps. Merci également à Thomas-Louis Côté d'avoir fait, je pense, une belle place à l'émission aussi dans la réflexion et la mise en place du 9e art dans la ville de Québec. Donc, ça a été aussi apprécié ce regard particulier qu'il a pu nous donner sur l'émission. Merci évidemment à CKRL 89.1 d'avoir hébergé La vie en BD pendant pratiquement une quinzaine d'années aussi. La station qui était un peu une deuxième maison pour moi. Donc, c'est la première fois que je quitte les ondes. Je pense que je ne serai pas en ondes à CKRL à un retour de saison depuis, mon Dieu, quasiment 24 ans. Donc, c'est assez intense aussi de mon côté de raccrocher aujourd'hui. Ben, Émilie, Édouard, Marco, merci d'avoir raccroché avec moi.
Tout un
Ça
plaisir.
fait plaisir.
On te remercie
Un
de
honneur.
notre côté là, d'avoir été ce que tu es, c'est-à-dire une transmission pour le 9e art. Il y en a qui étalent leurs connaissances et toi, tu as communiqué tes connaissances. C'est ce qui fait la différence.
Merci. Enfin, je rougis activement. Donc, en fait, c'est là-dessus. Je pense que le temps de l'émission est déjà écoulé. Alors, ben, auditeurs, auditrices, merci d'avoir été à l'écoute. Les émissions vont rester sur laviambd.com si vous avez envie de replonger un peu là-dedans, ou ne serait-ce que pour les archives du médium également. Merci infiniment. C'était Raymond Poirier au micro, puis ben, à une prochaine peut-être. Merci.